Bienvenue sur le podcast Moana, le podcast qui vous parle de parentalité. Avec mes invités, nous abordons différents sujets comme la grossesse, l'éducation, l'accouchement. Ici, vous aurez l'occasion de trouver des séries d'épisodes sur un sujet donné et parfois des épisodes hors série sur des sujets plus personnels où vous n'entendrez que ma voix. Moana, c'est la réunion de deux mots. Moine, qui signifie enfant, et Na, qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil à mes racines camerounaises. Moi, je suis Terry, heureuse maman de trois enfants qui ont 11 ans, 7 ans et tout juste un an. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Bonne écoute! Il y a quelques semaines, j'ai débuté une nouvelle série d'épisodes. En réalité, cette série n'a pas vraiment de nom. Elle est consacrée aux femmes, aux mères et plus particulièrement aux jeunes mères. Dans le cadre de cette série d'épisodes, Lise a bien voulu partager avec moi son métier et son quotidien en tant qu'éducatrice spécialisée dans un foyer familial. C'est l'épisode 21 du podcast que je vous invite à écouter. Aujourd'hui, je reçois Charline. En réalité, nous enregistrons cet épisode en anonymat, afin de préserver mon invité et sa famille. Cet épisode n'a pas été simple à faire, ni à écouter, mais je remercie infiniment mon invité pour son partage, qui, j'en suis persuadée, sera une leçon, une aide pour les personnes qui l'écoutent. Bonne écoute. Bonjour Charline.
Bonjour.
Alors, je vais expliquer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un épisode quand même un peu particulier, mais c'est un épisode qui était important et que vraiment, je tiens vraiment à faire, mais que nous tenons tous les deux à faire, toutes les deux à faire en tout cas. Donc cet épisode est particulier parce que, bon, tu ne t'appelles pas Charline en réalité, c'est un épisode qu'on va faire en anonyme, c'est la première fois que je fais ça ici sur le podcast. Mais voilà, on a de toute façon, les auditeurs comprendront pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire en anonyme. Voilà, on préserve aussi certaines choses. Donc voilà, je ne vais pas, comme d'habitude, te proposer de te présenter, hein, forcément. Mais je vais introduire un petit peu, voilà, dire pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce podcast. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cet épisode ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est quelque chose qu'on s'est décidé, on va dire, ensemble hein, à faire. Parce que tu as beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Tu es passée par pas mal d'étapes, on va dire, compliquées, en vrai. Ouais. Et donc tu as bien voulu partager ton histoire avec moi, avec nous, et du coup c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je sais pas vraiment par où on va commencer, mais je vais te laisser débuter, on va dire par le commencement déjà. On va dire par le commencement, c'est-à-dire t'as pas toujours été ici, donc je sais pas si tu veux pas rentrer dans les détails de d'où tu viens. On va commencer par le début, hein. Selon ce que toi, tu auras décidé de nous dire ici. Et puis après, on va continuer pour la suite.
D'accord. Et au final, d'habitude, j'ai remarqué que tu donnais les citations au début. Mais moi, je préfère l'utiliser à la fin.
Écoute, comme on a dit, c'est un épisode qui vraiment est particulier. Alors, on va faire comme ça. La citation se fera à la fin. Il n'y a aucun problème.
Voilà, donc comme vous savez, je m'appelle Charline en anonymat et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. J'espère qu'à la fin de de mon histoire, à travers mon histoire, beaucoup de gens pourront se relever, apprendre à se relever, à se dire qu'elles ne sont pas toutes seules à avoir vécu des histoires comme ça, parce que je sais que dans le monde, il manque beaucoup de voix pour en discuter et c'est bien dommage. Aujourd'hui, moi, je veux libérer la voix pour la femme, les jeunes filles, et surtout dire que l'amour existe encore, ne pas juste continuer à se braquer et tout. Voilà. Donc, on va commencer que moi, je fais partie d'une famille assez soudée, et au fur et à mesure que le temps avançait et que j'ai perdu mon papa, et la famille s'est beaucoup décomposée et j'ai été plus proche du reste de la famille, on dira deux, trois personnes, et puis voilà. J'ai rencontré l'amour, le premier amour, si on peut dire comme ça. Le premier amour au lycée, avec qui j'ai fait 5 ans de relation. On était fiancés, mais ma mère était contre le fait que je sois fiancée à mon ex-copain parce que pour elle, c'était pas possible que je puisse rester avec un noir, et elle voulait absolument que je sois avec un blanc. Alors moi, je fais partie.
Parce que c'est important ce que tu viens de dire, et pour situer un petit peu aussi les auditeurs, hein, parce que on ne te voit pas, vu que c'est non seulement c'est en anonyme, mais en plus de ça, c'est nos voix qu'on entend. Déjà, quel âge tu avais à cette époque-là? Et puis, on va préciser aussi que du coup, tu es noire, africaine.
Oui, je suis noire, africaine, voilà. C'est ça.
On précise pour que on comprenne vraiment.
Oui, en effet, à cette époque-là, j'avais 18 ans. 17, 18 par là, oui. Et c'est là où je me mets en couple avec un autre Africain avec qui on a fait 5 ans de relation. Ça n'a pas été beaucoup facile de mon côté, surtout pour ma mère, de l'accepter parce que comme je disais, elle, c'était vraiment typique dans sa tête, se mettre avec un blanc, parce que avec ce qu'elle a vécu avec mon père dans les familles africaines en général, il y a beaucoup de personnes, elles se disent, oh, si je savais, je ne serais pas rentrée en Afrique pour suivre l'amour que j'aime, et je serais restée avec mon blanc, voilà. Et aujourd'hui, ma mère, elle nourrit, on peut dire, comme une frustration du fait de ne pas avoir vécu sa vie avec un blanc, et remet la faute sur nous, les enfants, pour qu'on puisse se mettre aujourd'hui avec des blancs. Mais moi, ça n'a pas collé. Vous comprendrez au fur et à mesure. Voilà. Donc.
Important ce que tu dis là aussi, hein. Après effectivement, au fur et à mesure que tu raconteras ton histoire, parce que moi c'est vrai que c'était aussi ce qui m'avait interpellée en t'écoutant, c'est que quelque part en fait ta mère a un peu remis en fait je sais pas si c'est un espoir ou si c'est, enfin je sais pas comment qualifier ça, mais finalement elle a un peu rejeté sur toi, et c'est comme ça que toi finalement tu as vécu tu as vécu ton histoire. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé justement, cette relation. À quel moment, en fait, ça a été compliqué pour toi et surtout pour ta mère?
En fait, quand je me sépare de mon ex-copain, c'est parce que au bout des 5 ans, j'ai fait 2 fausses couches. Je ne pouvais pas, malheureusement, enfanter. Le problème était de nous deux. Ça n'avait rien à voir que j'étais stérile ou quoi. Mais dans ma tête, je m'étais mis que j'étais stérile. Et lui aussi s'était mis dans sa tête que peut-être j'ai un réel problème. En réalité, il faudrait que vous compreniez les jeunes couples d'aujourd'hui. Vous pouvez vous aimer comme quoi. Vous pouvez dire que vous êtes l'amour de votre vie l'un à l'autre. Mais non, il peut arriver des fois qu'on n'est pas compatible niveau gène. L'amour peut être là, mais honnêtement, les gènes n'étaient pas compatibles du tout. Donc, au final, comme je ne pouvais pas lui donner d'enfant, au bout de la deuxième fausse couche, il m'a laissé, il m'a dit « je suis incapable de lui donner un enfant, ça ne servait à rien de continuer la relation ». Voilà. Donc,
est-ce que vous êtes allé voir, est-ce que vous avez consulté un médecin?
On a tout fait, il a suivi des traitements médicaux, il prend des comprimés, j'ai suivi aussi des traitements, on m'a fait tout, on m'a dit j'ai aucun problème, je peux enfanter, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et ma première grossesse s'était arrêtée à 6 mois, et la deuxième c'était à 3 mois.
Ça a dû être très compliqué à vivre.
La deuxième, oui. La première, oui aussi. Parce que c'est là où on s'apprêtait maintenant à acheter la layette. Parce que faut se dire que, et c'est là où j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte et que elle m'a comment dire Elle m'a dit, tu fais tes affaires, je vais te déposer chez ton copain. Donc, limite, elle m'a mis à la porte. Mais elle est vraiment partie me déposer chez ma belle famille comme ça pour ma première grossesse. Et en plus, je venais à peine de rater mon bac. Donc, tout ça mélangé, c'était pas facile du tout. Tout était remis en cause par ma faute, c'est de sa faute, t'as raté le bac et tout et tout. Et puis voilà, et la deuxième, c'est au bout de la troisième année de relation. Et... Non, au bout de la quatrième, non, la cinquième année de relation, là où on se dit que c'est fini, voilà. Donc, comme j'ai été incapable, bah voilà. Et moi, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, entre-temps, j'avais un. Aujourd'hui, c'est mon futur, on va dire. Mais qui a toujours été là, malgré que j'étais fiancée, il a toujours voulu se mettre en couple avec moi. Mais moi, j'étais. Non, moi, je suis déjà fiancée, je ne veux pas être en couple avec toi. Donc, aujourd'hui, il a une grande partie dans ma vie, mais bon. Alors, donc, pendant tout ce temps, au mois de. Septembre 2019, je décide que je suis fatiguée d'être en Afrique. J'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller prendre de l'air. Depuis 2013, j'ai pas voyagé et donc je décide de lancer la procédure pour aller en France. Je lance la procédure et entre-temps, je m'inscris sur les sites de rencontres qui est on va dire mythique. Je me suis inscrite sur Mythique. Et au mois d'octobre, je rencontre le père de ma fille. Donc, on commence à discuter, on passe après sur WhatsApp, on s'échange des numéros. Et je lui fais comprendre que je suis en train de faire des démarches pour venir en France pour changer d'air. Donc, comme bien évidemment, changer d'air visa 3 mois, ce n'est pas pour rester. Et donc. J'étais censée voyager en décembre, mais je n'avais pas eu assez d'argent épargné et tout. Donc, je voyage le 10 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, j'arrive en France. Il me récupère à l'aéroport, tranquille. C'est content, joyeux et tout. Il n'y a pas de problème. Et il m'emmène chez lui. Je suis là. Mon retour était prévu pour le 8 février. Donc, le premier mois que j'arrive, bah, pour moi, dans ma tête, j'ai un problème niveau femme. Hein, je me dis, je m'en fous, de toute façon. Et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est passé. Et je suis allée acheter la pilule d'urgence pour la boire, la contraception d'urgence pour la boire. Et puis voilà, bon, moi, je me suis dit, bon, tant pis, je suis protégée, j'ai bu la pilule, mais en fait, non. Au moment de voyager, on se rend compte que mes règles sont pas venues. Et bah, panique à bord, pour moi d'abord. Et une semaine plus tard, j'ai mes règles. Je règle normalement. Et je me dis, bon, je vais quand même aller faire un test. Mais le test, il est positif. Donc, je fais le test. Et après, je vais à l'hôpital parce que je me dis, mais c'est pas normal que je puisse saigner. Ça veut dire que. Je me refaisais le film de la fausse couche et tout. Et je me suis dit, bah, peut-être j'ai fait une fausse couche et ça annonce toujours que je suis enceinte dans mon corps. Donc, je vais à l'hôpital, sachant que j'étais censée voyager. Je ne peux plus voyager parce qu'il faut aller impérativement d'abord à l'hôpital. Donc, je vais à l'hôpital avec lui et on nous explique que bah, ils n'étaient pas sûrs que le fœtus il allait vivre parce que. Il y a un décollement au niveau de ma voix basse et tout. Donc, bon, moi, je mets dans ma tête que, OK, je peux voyager, docteur? Ah ben non, vous ne pouvez pas voyager, sinon c'est clair que vous allez le perdre. OK, bon. Et...
Là, donc à ce moment-là, donc c'est avec ton copain que tu viens de rencontrer, que tu as rencontré via
Voilà.
Mythique, vous vous
Voilà.
voyez pour la première fois pendant ce
Voilà.
temps-là, c'est-à-dire le temps où tu étais ici,
Alors, et
donc
c'est un blanc. Un
ok,
blanc.
donc la précision est importante vu ce que tu nous as dit tout à l'heure, mais surtout ce que je voulais savoir, c'est donc ça fait donc pendant le temps où tu étais là, donc du mois de janvier jusqu'au mois de février. Donc là, tu apprends que tu es enceinte. Enfin, comment est-ce qu'il réagit en fait à ce moment-là? Comment vous réagissez tous les deux? Parce que bon, toi, tu expliques un peu
Bon,
comment ça
moi,
s'est passé à l'hôpital.
personnellement, Personnellement, moi, j'y croyais même pas que ça allait tenir. Pour moi, je me mettais dans ma tête que j'allais encore faire une fausse couche. Et lui, bah, il n'était pas, je dirais pas, il n'était pas triste, il n'avait aucune émotion à démontrer. Le premier réflexe qu'il a fait, c'est appeler sa famille. Et à partir de là, c'est ce que sa famille lui a dit, qui, au cours des semaines plus tard, a montré en fait que c'est compliqué pour lui. Il ne sait pas s'il est prêt, il ne sait pas si.
Parce que quand même, enfin, là, vous étiez quand même au début de votre relation.
En effet.
C'est vrai que bon, ça arrive quand même assez vite. Bon, hormis le fait qu'il en parle avec sa famille, enfin, lui, est-ce qu'il n'a pas été surpris? Est-ce que ça l'a pas dérangé du fait de la
Alors,
relation qui était encore jeune?
justement parce que en avançant plus tard, bah, c'était plus comme si je l'avais piégé pour rester en France. Et sans compter ce que sa famille, parce que alors, comment vous dire, il existe des blancs qui sont athées, mais il existe aussi des blancs qui croient en Dieu et il y a ceux qui sont témoins de Jéhovah. Et lui, sa famille fait partie des témoins de Jéhovah. Sa famille, quand il m'a présenté à eux, bah, sa famille était catégorique, c'était tu dois faire un choix entre nous ou bien elle. Et lui, il a dit, ouais, mais elle est enceinte, en fait, c'est pour ça que je voulais présenter. Et la famille dit, bah, écoute, tu fais ton choix. Il a dit, ok, bah, de toute façon, je vais reconnaître l'enfant. Et c'est là où la famille a dit, bah, tu oublies que tu as une famille. Tu nous oublies complètement. Et
Sur la base
c'est
de quoi,
là
en fait? Enfin,
sous
est-ce
la
que ça
base que
va?
je ne suis pas témoin de Jéhovah.
Donc là, ça n'avait rien à voir avec ta couleur de peau, c'était plus en fait ta religion qui
La
posait
religion,
problème.
oui, et que je ne voulais pas me convertir. Donc, c'était compliqué. Et à partir de là, bah, la famille, au fur et à mesure, a supprimé le numéro, bloqué et tout. Et bon, moi, de mon côté, j'ai dit à personne, j'ai même pas dit à ma mère. Ma mère a su pour ma grossesse plus tard quand on va y arriver.
Ça s'est
Donc, on est au
débloqué
moins.
les premiers mois, alors du coup, parce que tu restes finalement, tu vas à l'hôpital. Tu étais en train de nous expliquer tout à l'heure, finalement, tu vas à l'hôpital.
Voilà, je vais à l'hôpital, je ne peux pas voyager. Donc, en sachant que j'étais censée partir au mois de février, je ne peux plus voyager. Et bah, après, on est rentré dans le confinement. C'était le plus dur. Et fin mars, début, fin février, début mars, les problèmes ont commencé. Il a commencé à changer. Il a commencé à être violent. Il m'a laissé une journée entière sans manger et c'était horrible, c'était vraiment horrible parce que c'est là où c'est là où j'ai commencé à sentir ce qu'on appelle la dépression, entre le confinement, entre ce que je vivais et j'ai voulu me confier à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, oh, mais c'est pas possible, quoi, un blanc, il se comporte pas comme ça, c'est pas possible, tu me racontes n'importe quoi. Non, toi, dis-moi la vérité, t'es sûr que c'est pas toi qui as fait quelque chose? Eh ben non, c'est ce que je vis au quotidien, et elle me croyait pas, malheureusement,
Quand
non.
tu dis qu'il était violent, enfin, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux rentrer dans les détails, c'était de la violence physique ou verbale?
Alors, c'était les violences physiques et violences émotionnelles, oui. J'ai vraiment vécu ça parce qu'après, c'était des paroles que oui, tu es tombée enceinte pour me piéger, tu es tombée enceinte pour vouloir rester en France, pour avoir les papiers. C'était ça, en fait. Et c'est de ta faute si ma famille ne me parle plus aujourd'hui. C'est de ta faute si je suis seule au monde aujourd'hui. C'était vraiment tout ce genre de paroles. Et moi, je me suis sentie incomprise. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, lui. Il n'a jamais eu, c'est vrai, il n'a jamais eu d'enfant, mais en fait, lui, avant, au début de l'histoire, il m'avait raconté que son père les a été violent avec sa mère physiquement et les avait abandonnés quand il avait 12 ans. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, peut-être à travers son histoire, ils ne se rendent pas compte qu'il réalise les mêmes gestes que son père a eu à faire à travers son comportement.
Il a eu un
Aujourd'hui, c'est ce que je me
traumatisme,
disais, mais à l'époque, je ne
il est en
savais
train
pas.
de. Il a eu un traumatisme, mais en fait, ce traumatisme, il est en train de le ressortir, en
de
fait,
l'exprimer, c'est ça.
Ouais, avec toi.
Et ça, c'est maintenant que je me mets ça dans la tête, mais avant, je ne comprenais pas. Et
mais tu il sais a... quand même que cela n'excuse rien.
Aujourd'hui, oui, ça n'excuse rien. À l'époque, non. Moi, je pensais que c'était moi le problème pour de vrai. Je pensais vraiment que j'avais réellement un problème où je me disais, peut-être qu'il y a une manière dont il faut se comporter avec un blanc. Limite, j'étais prêt à me rabaisser vraiment comme si, ok, je suis téléguidée par la manière dont je dois me comporter. C'était comme ça, moi, que je me disais.
Tu étais en train de dire tout à l'heure que, du coup, à un moment donné, tu en as parlé à ta mère. Et comment est-ce qu'elle réagissait, justement ?
Que c'était moi le problème, justement. Donc, on me faisait croire que c'était moi le problème. Je ne sortais plus du lit. Je restais au lit, je faisais une semaine d'affilée, je ne me lavais pas du tout. C'était compliqué. Comment dire ? Il arrive un temps où je me confie à mon compagnon d'aujourd'hui pour lui expliquer ce que je vis, sachant que lui, il est en Afrique, moi, je suis en France. Et il me dit, écoute, tu vas t'en sortir et tout, sachant que je ne lui avais pas expliqué la vérité. Je lui avais monté toute une autre histoire en disant que j'ai rencontré un Français et tout, à une soirée, on a couché ensemble et puis voilà, je suis enceinte et tout, il ne veut pas l'enfant et tout. La peur de me sentir jugée. Voilà. Et après, j'ai dit la vérité, mais il y a beaucoup de femmes qui font ça et moi, j'en fais partie de ne pas avoir été honnête au départ avec lui. Et j'en suis toujours désolée, mais bon. Et donc, il est là pour moi, il me rassure. Et le père de ma fille et moi, on est limite comme des colocataires dans la maison. On se passe sans se dire bonjour, il sort comme il veut, sans me dire où il va, il rentre tard, il rentre pas du tout, et puis voilà. Et il arrive un jour, le 6 avril, où je suis au téléphone avec ma mère en train de pleurer, lui dire « Maman, j'en peux plus, je préfère rentrer en Afrique que rester en France, j'en peux plus ». Et le gars, il rentre de ses courses et il me balance un croissant au visage. J'ai dit, maman, tu vois, il me balance un croissant, je ne suis pas son chien quand même. Et elle me dit, donne-lui le téléphone. Et je dis, tiens, il y a maman qui veut te parler. Et il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est maman, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec ma fille ? Ouais, mais votre fille, moi, j'en ai marre, j'en peux plus, elle a qu'à dégager. J'ai dit pardon. Et donc, moi, je me lève avec la rage de dire que pardon, tu parles comment avec ma mère? Et il me pousse sur le lit. Et moi, j'ai dit, je ne laisse pas. Ça, c'est l'occasion que j'attendais pour montrer à ma mère que quand je te dis tous les jours que voilà ce que je vis dans la maison, tu ne me crois pas. J'ai placé le téléphone de telle sorte à ce qu'elle assiste à la scène. Donc, je dis, répète ce que tu as dit à ma mère. Oui, j'ai dit que c'est quoi et tout. Et on commence à se bousculer. Ma mère crie, laisse déjà.
Et en plus, moi, je dis...
Je suis enceinte. Là, j'avais 3 mois, 3-4 mois. Ouais. Et après, à la fin, il est tout rouge et il me dit, écoute, tu sais quoi, tu fous le camp de chez moi. Bon, ok. Sachant que je ne savais pas où je partais. Et c'est comme ça que je me mets sur mon lit. J'ai dit, ok. Là, en fait, ça, c'est l'occasion que j'attendais. Soit je pars, je ne sais pas où je pars. Soit je reste et je subis jusqu'à la fin. Et j'ai décidé de dire à ma mère que je pars. Et comme il m'a dit, je fous quand chez lui, je pars. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Et j'ai commencé à chercher à appeler une de mes cousines qui m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, viens à la maison. J'arrive à la maison, c'est des remontrances, c'est patati et patata. Ouais, mais tu sais, c'est le blanc, il faut retourner, il y a des concessions, tu n'es pas la première à qui on tape et tout, va subir. C'était ça.
Qu'est-ce que j'entends? Les concessions, enfin, les concessions, c'est
par rapport à quoi?
Les concessions, que c'est pas parce qu'il t'a tapé ou il t'a mis dehors sous l'effet de la colère, vas-y, retourne et tout, tu vas pas élever ton enfant seul, tu vas pas être. Ok, on peut t'héberger 3 jours, mais pas plus, quoi. Retourne dans ton foyer, t'es pas la première à qui ça arrive, t'es pas la dernière. Mais moi, je me sens incomprise un peu et j'exprime ma peur à ma mère. Et ma mère, elle me fait comprendre que, ben, écoute, c'est pas possible que tu retournes là-bas, non. Moi, en tant que ta mère, non, c'est pas possible que tu repartes. Il faut que tu trouves une solution ou partir, vu que ta cousine ne veut pas te garder.
Là, ta mère, elle
Aussi,
était quand même
sachez
très avis
oui.
par rapport à ce qu'elle
À la
disait au
scène,
départ.
elle a assisté à la scène, bien sûr. Là, elle a vu la scène et s'est dit, ah, non, elle racontait pas du n'importe quoi. Et il faut bien comprendre qu'en Afrique, on se sent tous soudés. Mais quand on arrive dans un pays occidental, la France et tout, bah, faut savoir que ici, c'est la jungle, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vas te dire que tu as une famille ici, mais en fait, quand tu arrives chez ta famille qui est censée être un soutien comme en Afrique, bah, en fait, on te rejette tout simplement. On te dit, tu gênes, il faut faire quoi, tu pars quand? Et au point de dire à ma mère, oui, mais quand elle est venue en France, elle a dit à qui? Maintenant, elle est enceinte, bah, elle a qu'à se démerder dans la France, limite, quoi, c'est ce qu'on me disait. Et bah. Après, je suis partie de chez ma cousine au bout d'une semaine et je suis allée chez un oncle en plein confinement. Ce n'était pas facile de voyager déjà en plus et j'étais enceinte avec des forts vomissements. J'ai vécu les vomissements là vraiment jusqu'à 6 mois. C'était horrible. Ah oui, ma grossesse là, j'ai subi ça entre les voyages à gauche, à droite. J'ai fait pratiquement la France. Alors, je suis allée chez le frère de le un ami à ma mère quand ils étaient à l'université qui m'a hébergée tout un mois pour que je me repose. Après, je suis allée chez ma meilleure amie tout un mois et je me suis reposée. Et j'avais voyagé avec une dame. Quand je suis venue en France, avec qui j'avais gardé le contact et je lui avais expliqué ma situation. Et elle m'a dit, écoute, bah, viens dans ma ville, c'est une superbe ville et tout, tu vas t'en sortir et tout. Je t'héberge et tout, il n'y a pas de problème, tu payes rien. Bon, ok. Bon, à la limite, moi, je me suis dit, je vais quand même contribuer par mois à payer la nourriture dans la maison, c'est quand même le minimum, même si je ne paye pas le loyer. Donc, je quitte chez ma meilleure amie, ma meilleure amie m'accompagne chez cette dame parce qu'elle ne voulait pas aller me déposer. Elle voulait pas que j'aille seule à un endroit qu'elle ne maîtrise pas elle-même parce que s'il y a quelque chose qui m'arrive dans la France quand même, elle va se dire, elle saura quoi dire à ma mère et tout. Donc, je quitte avec ma meilleure amie de chez elle pour aller dans la ville en question. Et arrivée dans la ville en question, ça se passe bien, hein, comme d'habitude. Le premier mois, c'est super, il n'y a pas de problème. Et le deuxième mois, les problèmes commencent. Oh, tu comptes partir quand? Oui, il manque ci dans la maison, il manque ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et voilà. Le 16 septembre, après les. Parce que je suis arrivée chez elle en juillet, donc juillet, août, septembre. Donc le 16 septembre, le jour de l'anniversaire de ma mère, elle me fout à la porte, enceinte. Là, j'avais 8 mois de grossesse. Et je dors à la rue. Je dors à la rue et c'était pas possible.
Tu dors littéralement à la rue.
Oui, à la station de bus, je dors là. Et le lendemain, les passants me voient comment je suis. Et heureusement, elle n'a pas mis mes affaires dehors. Et les passants me voient et ils expliquent. Et il faut appeler un numéro qui s'appelle le 115 ici. Donc, j'appelle le 115. Et le 115 vient me chercher avec une équipe de rue pour m'emmener dans un foyer pour mère et enfant. Voilà. Je me retrouve en foyer pour mère et enfant, où je me mets dans la tête que c'est pas possible, je peux pas rester là au bout de. Non, c'est pas possible. Mais j'ai pas le choix, mais au moins j'ai un toit. Et bah, je fais 1 mois plus tard, bah, je me retrouve aux urgences. J'accouche.
Enfant de
Et voilà.
grossesse.
Ouais, mois
Donc,
plus
chacun
tard,
sur sa fin
j'accouche.
de grossesse, enfin, 1 mois, en tout cas avant d'accoucher, dans ce foyer, pour jeune mère.
C'est ça. c'est un foyer vraiment où c'était pas facile parce que ce sont des foyers d'urgence, c'est pas des foyers qui sont ouverts en permanence, c'est des foyers à partir de 11h du matin, tout le monde dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, tout le monde dehors. Vous allez manger à la cantine, la cantine, on va dire. Et arriver à la cantine, que ce soit bon, pas bon, bah écoute, tu dois te nourrir, quoi. Tu manges et tu manges pas, bah tant pis. Et vous avez le droit de retourner à 13h30 au foyer. Voilà. Donc, de tous les jours qui pleuvent ou qui neigent, 11h, tout le monde dehors, jusqu'à 13h30. Vous errez pas, bah, c'est pas leur problème parce que c'est normalement un foyer d'urgence, c'est pas un foyer en permanence où vous pouvez rester là, préparer là, comme les autres foyers qu'on connaît en général. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà. Et dès que je sors de l'hôpital, bah, c'est la même routine, la poussette, il faut acheter les poussettes, il faut faire ci. Et il faut savoir que s'il n'y avait pas ma meilleure amie pour faire la layette de la petite et la Croix-Rouge, ma fille, elle n'aurait même pas eu un vêtement pour s'habiller. J'ai eu aussi des amis super sympas.
Enfin, à ce moment-là, parce que du coup, tu vas dans ce foyer, bon, tu y restes à peu près un mois. En plus, tu es obligée de... Enfin, ce n'est pas permanent. À ce moment-là, est-ce que le père de ta fille, est-ce qu'il était, il était au courant de quelque chose? Il savait que tu étais dans un foyer? Est-ce qu'il a su au moment où tu as accouché?
Alors oui, je lui ai dit que j'ai accouché. Il est venu le lendemain vérifier que c'était ça, hein. Comme il dit, hein, vérifier. Et il est parti faire les papiers. Heureusement, parce que j'ai oublié de dire qu'au bout de 5 mois, il me menaçait de ne pas reconnaître l'enfant. Donc, je l'ai emmené à la mairie avec la police pour qu'il puisse signer un papier de reconnaissance qu'on donne à la mairie qui prouve que quand l'enfant va naître, il va reconnaître l'enfant. Donc, moi, j'avais ma garantie qu'il va reconnaître l'enfant pour pas, moi, plus tard, me retrouver avec un enfant sans père. Chose que j'ai pas grandi comme ça, c'est pas possible. Et le lendemain, il est arrivé le lendemain de l'accouchement, il a vu l'enfant et tout, et il a fait 1 heure max et il est reparti dans sa ville, comme on est en ville voisine et tout, et voilà. Et je me dis, il va payer quelque chose. En fait, il a juste payé, depuis quelle année, il a payé 2 tétines de peluche. C'est tout. Il avait promis à acheter une poussette, il n'a jamais payé. Et quand je le relançais, c'était du genre, écoute, tu as voulu être une mère seule et isolée, t'assumes et tu manges les allocations de la France.
Mais je comprends pas, tu as voulu être
une mère seule et isolée. Enfin, il dit ça par rapport à quoi? Parce que quand vous avez vécu ensemble,
ça n'a pas fonctionné. Après qu'il m'ait mis à la rue, il était venu me redemander pardon de revenir à la maison. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Je fais partie des femmes, quand on tape une fois et que quand on me donne l'opportunité de partir, je peux plus retourner en arrière, c'est pas possible.
Et je peux pas juger ça, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, et là, je donne vraiment mon avis, j'ai envie de dire, c'est le meilleur choix, en fait. C'est le meilleur choix, parce que on peut pas, être violent tout court avec une femme, être violent tout court, c'est un problème. Mais alors là, une femme enceinte, je n'ai même pas de mots, en fait. C'est même pas pensable, quoi.
Ouais. Et voilà. Nous voilà, ma fille et moi. Croix-Rouge, merci. Meilleure amie, merci. Et puis, un coucou à Rennes aussi qui a été magnifique. Elle est passée aussi sur ton plateau.
Grâce à qui
on a pu se rencontrer et faire cet épisode aujourd'hui. Franchement, c'est important de le dire. Merci, Rennes.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, voilà, ma fille, elle avait des habits, elle était prête. Donc, quand j'ai accouché, heureusement, il y avait tout qui était déjà prêt et tout. Dieu a bien fait les choses, vraiment, qu'un mois pile poil, que j'étais vraiment dans le foyer, j'accouche. Et après, c'était dur, vraiment très, très dur, parce que
après, on rentrait dans la période de l'hiver avec un nouveau-né, être dehors, c'était très, très compliqué.
Et déjà, j'ai envie de te demander comment tu l'as vécu
cet accouchement, comment il s'est passé, enfin, globalement. Parce qu'en plus, tu étais toute seule, enfin, ta famille pas forcément à côté. C'est la première fois, c'était ton premier accouchement. Enfin, comment est-ce que tu l'as vécu?
Comment dire? Ça a commencé un mercredi quand je suis rentrée aux urgences. Et le mercredi, je rentre aux urgences, je me dis, je vais accoucher le lendemain. Ben non, je suis ouverte juste à un doigt. Jeudi, toujours un doigt, ça avance pas. Vendredi, deux doigts. Et j'avais des contractions énormément. Et le docteur, il me disait que bah, si vous avancez pas, bah, on va vous laisser rentrer chez vous. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. On est vendredi, je vous dis, j'ai super mal. Et vous me dites, vous allez me laisser rentrer à la maison à deux doigts ouverts. C'est comme ça que le samedi matin, le 17, donc, il décide de me déclencher l'accouchement. Le déclencher vraiment, mais pas par des méthodes que vous avez l'habitude d'écouter. Ça n'était pas par perfusion, ça n'a pas été par autre aussi, césarienne ou quoi, non. Ça a été par des ballonnets. Ce sont des ballons gonflables qu'on te met dans l'utérus et le vagin. C'est ce qui fait en sorte que ça réduit le col et ça efface le col complètement pour pouvoir après passer à la péridurale, après à l'accouchement et puis voilà. Donc, on me fait ça à 10 heures. Mon col s'efface complètement au bout de 21 heures. Et à 22 heures, on me pose la péridurale. Moi, je me dis, ah, mais c'est super, je vais accoucher à minuit, 1 heure du matin, c'est bon, je gère. Ah bah non. Ma fille est arrivée le 18, un dimanche, le 18 octobre, à 10h20. Et alors, elle est née avec le cordon autour du cou, elle était toute bleue. Elle a failli partir et moi aussi par la suite j'ai failli partir parce qu'après j'ai fait une hémorragie quand on a dû retirer le placenta. Donc moi j'ai pas pu allaiter ma fille le premier jour non. J'ai vu ma fille 3 jours plus tard parce que j'étais très très fatiguée. Et voilà, c'est ça les péripéties de l'accouchement à l'hôpital.
Je connais un petit peu ton histoire par rapport à parce qu'on en a discuté et tu m'as raconté. Et cette partie-là, cette période-là, je ne la connaissais pas. Et je me dis, mais en fait, waouh,
ouais.
Tu en as vécu des choses.
Hein. Peut-être un jour, on va écrire un livre. Il faut t'y mettre, hein, Terry.
Franchement. Waouh.
Voilà, et une boule de neige aujourd'hui, voilà. Donc,
à l'hôpital, ils connaissaient ta situation, la situation voilà, à laquelle tu étais à ce moment.
Ma situation, en effet, parce que vu que je faisais mes visites dans cet hôpital, ils connaissaient déjà ma situation au niveau de l'assistante sociale, et puis voilà. Et après, ils m'ont raccompagnée à la maison aussi, hein, au bout de 2 semaines, quand on était en très bonne santé, parce que ma fille, elle perdait beaucoup de poids, donc ils ne pouvaient pas nous nous déposer à la maison. Il fallait vraiment qu'on attende au bout de 2 semaines pour qu'elle commence à prendre du poids avant de nous dire que c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison, safe et tout, voilà. Mais malgré ça, malgré tout ce qui s'est passé, le foyer n'a pas eu pitié de moi pour me dire que bon, quand même, on connaît la situation. Non, 11 heures, on était dehors. Un nouveau-né en plein mois d'octobre, novembre arrive, décembre, l'hiver, vous connaissez. Hein? Et voilà, et c'était très, très, très dur. Et j'ai commencé après à chercher des crèches parce que j'étais à bout, j'étais fatiguée et tout. Mais Dieu faisant les choses, ma fille, elle a commencé à faire ses nuits quand elle avait 3 mois. C'est comme si Dieu lui avait dit « facilite la tâche à ta mère ». Parce que oui, en vrai, elle m'a beaucoup facilité la tâche. J'ai pu me reposer, j'ai pu faire des trucs, et puis voilà.
Et puis enfants aussi beaucoup les choses. Moi, j'y crois hein, à ça, hein, que les enfants ressentent les choses, et surtout, Tu sais, parfois, et ben, encore plus les filles, mais même si elle était nouveau-née, tu vois, peut-être que finalement, elle a ressenti quelque chose et puis elle s'est dit, bon, bah, on va faciliter au maximum, quoi, les choses.
C'est ça.
Parce que là, c'était pas une situation facile, hein, c'était pas une situation simple.
C'est ça. Et décembre 2020, alors, son papa m'envoie un message pour me dire qu'il voulait récupérer la petite pour l'emmener en Bretagne. Je ne comprends pas. Je dis OK, pourquoi pas, pour aller voir ma famille. Ils ont repris contact avec moi, on s'est réconciliés et tout, et ils veulent apprendre à connaître la petite. Je dis OK, bah, il n'y a pas de souci, hein, on part quand? Ah non, on n'a pas besoin de toi. Pardon. C'est un bébé de
Quel âge, là?
2 mois. Oui, 2 mois. Elle avait 2 mois, puisque novembre, décembre, oui, 2 mois, elle avait 2 mois. Pardon. T'as pas besoin de moi, mais je l'allaite, gars. Tu peux pas prendre mon enfant comme ça. Ah, mais non, mais moi, je suis son père. Bah, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis sa mère et je lui donne à manger. Et tu as besoin de ma présence si tu veux aller en Bretagne avec elle. Et lui, il est catégorique, il dit non, ma mère ne voudra pas. Bah, autant pis, donc s'il ne veut pas de la mère, bah, elle ne veut pas de la fille, de la petite fille aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et à cet instant précis, je me suis sentie menacée. Sachant que j'avais toujours. On est en décembre, j'avais toujours pas mes papiers à jour. Hein. J'étais en situation irrégulière, je me sentais menacée de chez menacée. Et en janvier, je commence à lancer la procédure. J'ai mon document, je suis à jour, au calme. Février, je lance la procédure au niveau des affaires de la JAF, comme on appelle le juge des affaires et de famille. Et je me renseigne auprès de Rennes, encore une fois, comment ça se passe, parce qu'elle avait fait un article concernant les gardes alternées et tout. Et elle m'explique à peu près comment ça se passe et tout. Et je me dirige, donc je me renseigne auprès de ma ville en question, comment ça se passe. On me donne contact d'un avocat, parce que apparemment j'ai droit à un avocat gratuit pour une première séance. Et à partir de là, c'est la CAF qui prend en charge le reste de la procédure. Donc moi, j'explique au papa que bah, je vais lancer une procédure par rapport à une garde exclusive de mon côté, parce que ce n'est pas possible qu'il puisse se lever un matin pour venir récupérer un enfant dont il ne s'en occupe pas du tout. Sachant que le papa, pendant l'année 2021, c'était du genre aujourd'hui, il envoie 50 euros, demain, il envoie 100, après, demain, il te dit, le mois là, c'est compliqué, essaye de te gérer toi-même. Je fais comment pour acheter des boîtes de lait? Mais Dieu faisant bien les choses, la France a mis en place tellement d'aides sur place qu'en Afrique, on ne bénéficie pas, malheureusement. Et c'est ça, aujourd'hui, je dis heureusement, je suis restée ici à coucher, parce que si j'étais rentrée en Afrique, ma mère, j'aurais été une charge pour ma mère de plus, en fait. Et donc, au niveau de la procédure, bah, il me dit, écoute, fais comme tu veux. Je dis, bon, OK. Il m'a dit, je fais comme je veux. Bah, je lance la procédure. J'ai eu un superbe avocat. Et l'avocat me fait comprendre que généralement, pour ce genre de choses, il faut attendre 9 à 10 mois pour que le dossier soit traité. Moi, je vois ça super long, mais en vrai, les mois sont tellement passés vite. Entre-temps, au mois de juillet, il me dit oui, il me fait culpabiliser en me disant oui, tu fais passer notre enfant au tribunal et tout, notre enfant va grandir dans un système comme ça, je ne suis pas d'accord. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je contacte mon avocat pour demander que je vais arrêter la procédure. Mon avocat me dit.
Vraiment psychique, je sais pas comment dire ça, mais c'est
Mais. Et j'appelle mon avocat, je dis je vais arrêter la procédure parce qu'au final, je me suis arrangée à la. J'ai menti, je dis je me suis arrangée à l'amiable avec le père, c'est bon, ça a arrangé. Il me dit c'est pas possible, c'est pas vous qui êtes venu pleurer. Sachant que mon avocat, quand je lui ai raconté mon histoire, tout son service, parce que c'était un vendredi, tout son service le lundi, elle m'a rappelé de me dire venez, on a une surprise pour vous. Et j'avais 4 gros sacs cabas de Carrefour avec des vêtements pour ma fille. Et donc, elle me dit, non, ce n'est pas possible, je ne te crois pas. Je dis, bah si, elle me dit, je ne te crois pas. Bon, écoute, de toute façon, même si vous êtes arrangé à l'amiable, on va quand même passer au tribunal. Et au tribunal, vous allez expliquer que vous êtes arrangé à l'amiable. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Je dis au gars, écoute, on ne peut pas arrêter la procédure comme ça parce que c'est lancé. Bah, on passe toujours au tribunal. OK. Et les mois arrivent très, très vite. Après juillet, on arrive au mois d'octobre, on passe devant le tribunal. Et il reçoit la convocation en août. Moi, j'ai reçu ma convocation aussi de mon avocat et on lui expliquait comment ça devait se passer. Sauf que il s'avère que monsieur n'est pas venu au tribunal. Il a fait le mort, pour dire tout court. Il n'a pas répondu aux huissiers de justice. Il n'a pas répondu aux appels. Il n'a pas répondu aux mails même que mon avocat. Il n'a rien fait du tout. Et il y a vraiment, entre-temps, de juillet à octobre, moi, j'ai trouvé du travail où je suis en CDI aujourd'hui. Ma fille, elle a commencé la crèche, tranquille, en pleine forme et tout. Elle a fêté ses 1 an en octobre. Et lui, donc, il ne vient pas au tribunal. Donc, moi, je fais aussi la morte. Je ne lui dis pas, tu ne viens pas, tu ne fais pas quoi. Je dis rien du tout parce que je suppose qu'il est au courant vu qu'il y avait l'avis de passage des huissiers. Et le 12 décembre, il revient m'écrire pour me dire, j'arrive jeudi de la semaine prochaine récupérer la petite et tout. je l'emmène en week-end dans ma ville et tout. Je dis pardon.
Est-ce que là, il y avait déjà eu, parce que donc tout ça, ça s'est passé
il y a eu le tribunal en octobre.
Le tribunal, c'était en octobre et décembre. Donc, après le tribunal et tout, tout est déjà réglé avec le tribunal. J'ai la garde exclusive.
Okay, d'accord, donc tu as quand même une décision
qui était prise et tu as la garde.
Voilà. Voilà, une décision s'est tombée le 12 décembre, justement. Et une semaine plus tard, lui, il m'écrit pour me dire qu'il veut prendre la petite en week-end. Et moi, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que tu penses que lui aussi, à ce moment-là, il avait reçu la décision du tribunal?
Il a reçu la décision du tribunal en janvier, pas en décembre. Il l'avait reçu en janvier. Et donc, je lui dis, mot pour mot, juridiquement parlant, j'ai la garde exclusive de la petite. Tu ne peux pas te lever un matin pour me dire que tu viens chercher la petite, sachant qu'il a vu, j'ai remis ça, mais il a vu la petite 3 fois. 3 fois. En année 2021, il a vu que 3 fois. Voilà. Et il me fait comprendre, il me dit, pardon, tu m'avais dit que tu avais arrêté la procédure et tout. Je dis, pardon. Je ne t'ai jamais dit que j'avais arrêté la procédure. Je t'ai dit, j'ai essayé d'arrêter, mais on devait toujours passer devant le tribunal. Mais sachant qu'il y avait un huissier de justice qui est passé chez toi, il y avait l'avis de passage, il y avait le courrier, parce que le courrier, l'avocat, le tribunal m'a convoqué pour me dire qu'on avait ils avaient envoyé par la poste et ils devaient le retirer à la poste, mais il n'avait pas retiré, il avait laissé le courrier 3 jours, donc automatiquement, le courrier est revenu chez moi. Et lui, il me dit, non, j'ai rien reçu et tout, mais vraiment pour me faire chier, comme je dis tout le temps, c'est un gros emmerdeur de chez emmerdeur. Et il me dit, écoute, moi, je veux voir la décision du juge. J'ai dit, il n'y a pas de souci, dès que tu reçois ton courrier, tu verras, hein, je ne vais pas te louper et tout. Et il laisse tomber l'histoire qu'il veut la récupérer. Il appelle plus rien, sachant que moi, toute l'année, hein, je suis quelqu'un, je fais des photos, je fêtais chaque mois du cours de la vie de ma fille. Et donc, chaque mois, chaque 18 du mois, j'envoyais une photo, j'envoyais une vidéo, comment elle évoluait. Et lui, c'était à chaque fois ses réponses, OK, waouh. Le jour de son anniversaire, par exemple, il n'a pas fait genre joyeux anniversaire. Lui, il a dit, aujourd'hui, elle prend 1 an. Joyeux, il n'a même pas dit joyeux 1 an, il a dit aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Iona pour ses 1 an ou un truc comme ça. En tout cas, ce n'était pas démonstratif, émotif ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout de tout cela. Et voilà, donc j'ai la garde exclusive de ma fille. on vit notre best life. Alors, le mois de décembre a été un mois très, 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 très particulier parce que le 7 décembre, on quitte enfin le foyer pour avoir notre propre appartement, notre là, premier resté... appartement.
Ouais.
Au foyer, j'ai fait donc, au foyer, j'ai fait au total, donc je suis rentrée en foyer le 17 septembre et je suis sortie le 7 le 17 2020 et je suis sortie le 7 décembre 2021. Donc j'ai fait un an et quelques mois au foyer. Voilà. Ma fille a tout fait au foyer. Elle s'était fait une famille. Il y avait des gens qui partaient devant nous et moi je disais, ah, c'est quand nous aussi on va partir un jour et nous aussi on va faire ci, nous aussi. Mais c'était très, 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 très long, très long. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des assistantes sociales parce que c'est tout un parcours vraiment. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, c'est pas drôle. Hein. On se dit, les autres partent, moi, c'est quand Dieu, tu m'as oublié, on dirait, hein, on fait comment? Je suis là, on ne m'oublie pas. Mais il ne nous a pas oublié, en fait. Comme on dit toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Et la prière m'a aussi beaucoup sauvée. Ma mère a été aussi d'un grand soutien, heureusement. Mais bon, c'était compliqué au début, comme vous avez écouté. Et ça va encore être compliqué parce que je vais vous raconter après. Et on passe notre premier Noël à la maison ensemble. Premier petit sapin que je lui ai offert, son premier cadeau que je lui ai offert, sa robe et tout. La crèche était parfaite. Elle a kiffé la crèche. Elle a eu plein de copains, les maîtresses et tout. Elle est aimée de tout le monde. Et on arrive à la bonne année 2022. Dieu nous a fait grâce. On est en vie, on respire. On a la chance de vous faire ce podcast. Et le 9...
donné,
malheureusement...
La vie bascule encore. Enfin, je prends un peu les devants en faisant une introduction. Mais bon, si on peut dire, en fait... Hein. T'as cette partie-là où finalement vous trouvez un appartement, tu as ton travail parce qu'entre-temps tu avais trouvé un CDI, tu nous as dit tout à l'heure, tu arrives à quitter le foyer, tu as ton appartement, finalement après avoir vécu toutes ces entre guillemets toutes ces difficultés que tu as eues, finalement tu finis par t'en sortir, en tout cas tu vois le bout du tunnel comme on dit. Et puis raconte-nous en janvier finalement ce qui se passe.
Bah, le 9 janvier, on passe une journée comme d'habitude, ma fille et moi. Les week-ends sont très, très précieux pour nous parce que c'est les jours où elle et moi, on est ensemble, sachant que du lundi au vendredi, elle a la crèche jusqu'à 18h30. Moi, du lundi au vendredi, je travaille du matin jusqu'au soir. Et on n'a pas assez de temps en 18h30, au lendemain, on dort, on est KO. Et le samedi, dimanche, vraiment, c'est nous, c'est nos jours maman-fille, quoi. Et le 9 janvier 2022, à 16h, ma fille commence à convulser. Je ne comprends pas. Elle a commencé à avoir des yeux qui se retournent. Pas de fièvre, elle avait des taches rouges au ventre. Bon, on m'avait dit la semaine d'avant que c'était la roséole et tout, avec la poussée dentaire. Mais je commence à paniquer parce que les yeux tournent vraiment et dans son regard, elle tremble. J'ai l'impression qu'elle me dit, maman, aide-moi. J'ai le réflexe, on va aux urgences. J'arrive aux urgences, on nous reçoit tout de suite et on lui prend la température, elle est à 39. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas. La semaine dernière, elle n'avait pas de fièvre. Même avant d'arriver, elle n'avait pas de fièvre. Elle était à 36,5. Et elle a plein de taches rouges. Je dis, oui, on m'a dit que c'était la roséole. Eh bien, non, madame, ce n'est pas la roséole. Il faut qu'on la prenne tout de suite en charge. OK. J'avais pris son carnet, son sac à dos et tout. Et je dis, OK, elle n'a pas de souci. On la prend en charge. On essaie de lui faire des prises de sang parce que c'était parti. Une course contre la montre. Et on arrive à lui prendre parce qu'avec la fièvre, quand les enfants, ils font, sachant qu'elle avait 14 mois en janvier, quand les enfants ils font de grosses fièvres, on n'arrive pas à trouver les veines
Des
dans le
veines.
corps. Donc, on pique à gauche, on pique au pied, on pique de partout. Et elle avait plein de bleus qui commençaient à sortir, sachant que ma fille, elle est très blanche. Très, très blanche. Elle n'a rien à voir avec couple mixte, quoi. On va dire vraiment, c'est le blanc-blanc de chez blanc, quoi. Et au bout des analyses, on réussit à lui piquer au niveau de la tempe. Et à la tempe, on lui fait des prises de sang et tout. On réussit à lui administrer des antibiotiques pour faire descendre la température. Et au bout de 5 heures d'attente, donc de 16 heures jusqu'à 20 heures, on nous dit les résultats sont tombés. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a? Votre fille, elle a une leucémie aiguë. Pardon? Trou noir. Je ne comprends rien. Je vois mon monde comme ça. Je dis, OK. C'est quoi une leucémie? J'étais bête à cet instant. Pour moi, je ne comprenais pas. Je
Tout
dis,
le monde ne sait pas ce que c'est qu'une leucémie. Enfin, c'est. Et qu'est-ce qu'on
et
t'explique?
on me dit, écoutez, madame, c'est un cancer. Pour moi, je me dis, ma fille va mourir demain. C'est pas possible. J'ai commencé à pleurer, ma fille a un cancer. Et après, je m'arrête, je dis, un cancer de quoi? On me dit, un cancer du sang. Et en fait, là, c'était la goutte de trop. J'ai pleuré toutes mes larmes et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais madame, rassurez-vous, vous n'avez rien fait. C'est quelque chose de génétique. Est-ce que vous avez des cancers dans votre famille? Non. Dans son père? Oui, il y en a. Et c'est comme ça qu'on nous fait comprendre que elle n'a plus d'oxygène. Il faut les taches rouges qu'il y a sur son corps, c'est parce qu'elle n'a plus de globules rouges. Elle était à 30 de globules rouges. Vraiment très très bas de globules rouges dans son corps et ces pétéchies, on appelle ça des pétéchies, qui sortent sur son corps, c'est pour exprimer le manque d'oxygène dans son corps. Donc elle avait le truc nasal pour respirer. Et on nous dit, madame, il faudra que vous rentrez chez vous, faire un petit sac pour au moins 1 ou 2 semaines, parce qu'on vous transfère dans une autre ville qui est à 45 minutes environ de notre ville où on habite. J'appelle ma patronne, elle vient me chercher et je lui explique en bref et tout. Et elle me dit, OK, d'accord, elle retire de l'argent, elle me remet, elle me dit, tiens, au cas où il y a un problème sur la route, au moins tu as quand même des sous et tout. J'arrive à la maison, je fais un baluchon et tout et je reviens à l'hôpital. 23 h, on est parti pour l'autre ville en question. Et arrivé sur place, on fait les tests COVID et tout. Bon. Ma fille a aussi le Covid Omicron. Moi, négatif, elle, positive. C'était trop pour moi. Je crois ça va être peut-être la deuxième ou troisième fois que je disais adieu dans ma vie que pourquoi moi? Pourquoi quand tu me dis je t'ai sorti de la boue, tu me ramènes encore dans la boue, dans le trou noir, que oui, j'avais l'impression que Dieu, ça lui faisait plaisir de me voir souffrir, que être heureuse, parce que je ne peux pas comprendre que un mois de bonheur, mais vraiment c'était 7 décembre, appartement, 9 décembre, trou noir, c'est pas possible. Pour moi, je dis non, j'ai fait un an et quelques en foyer, tu vas pas encore me ramener dans un trou noir. Oh, mais j'étais grave en colère contre Dieu, j'ai vu mon monde s'effondrer et tout. Mais aujourd'hui, je comprends mieux en fait. Aujourd'hui, je comprends mieux, mais c'était très, très, très. C'est toujours parce que là où je vous parle, c'est quelque chose, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ma fille et moi. Ma fille est malade, heureusement, on a détecté ça vite. Si on devrait mettre ça sur une échelle de 100%, on dirait. On a détecté ça au niveau de 10 à 15%. C'est vraiment au début qu'on a détecté ça, mais c'est quelque chose que si on s'y prend tard, en effet, on peut parler d'autres choses plus tard, c'est-à-dire de greffe ou alors pas du tout et elle peut y passer. Mais heureusement, vraiment, c'était quelque chose qu'on a découvert à temps. Et voilà,
Est-ce que tu
j'ai
peux
la chance.
me dire aujourd'hui, parce que nous on fait cet épisode aujourd'hui et moi je te vois, je sais ce que tu vis aujourd'hui, hein, parce que je te vois et parce qu'on en a discuté.
Mais quelle est la situation aujourd'hui? Comment vous vivez aujourd'hui? Ta fille, comment elle va?
Alors, ma fille aujourd'hui en 2022, au jour d'aujourd'hui, elle a 15 mois. Et je vis entre deux villes. Pour ne pas dire, je me retrouve à payer un loyer où je ne dors pas. Je me retrouve à être dans une nouvelle ville que je ne connais pas. Je me retrouve à habiter H24 dans un hôpital avec ma fille en chambre stérilisée parce que oui, elle a commencé la chimio. Elle a terminé la première cure. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de greffe, on parle uniquement de la guérir uniquement grâce à la chimio, c'est-à-dire il se donne environ 6 mois. Mais c'est ma fille, elle est forte, elle est très forte, très très forte. Au début, c'était très très dur avec le Covid et la chimio, mais aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'elle est négative, maintenant aujourd'hui, et elle est très forte, elle rigole, elle recommence à parler, à dire maman, maman. J'ai la chance d'avoir des normes, des amis qui sont là pour moi, qui ne me laissent pas me aller mal parce que il m'est arrivé de péter les plombs, hein, de me dire peut-être je vais mourir parce que ma mère, quand ma mère elle apprend ça, bah, ma mère elle dit c'est de ma faute.
C'est vrai que
Encore une fois.
je te demander comment est-ce qu'a réagi ta famille? Est-ce que ta famille te soutient dans ce que tu vis qui est compliqué et son papa? Comment est-ce qu'il a réagi en apprenant ça?
Donc, ma mère, elle me dit c'est de ma faute parce que, vous savez, la famille africaine, il faut cacher les enfants, il ne faut pas exposer les enfants sur Internet et tout. Et moi, ma fille, je ne l'ai jamais exposée sur Internet. J'ai uniquement mis les photos de ma fille à partir de quand elle a eu 6 mois sur WhatsApp. Mais il y avait un nombre de personnes bien limitées qui voyaient ma fille, personne ne pouvait voir et tout. Parce que j'avais peur et tout, et je voulais la protéger. Mais au final, ma mère, il a fallu qu'elle puisse écouter des discussions dans sa famille pour moi me remettre en question et dire que non, on sait qu'elle a accouché, tu caches l'enfant, pourquoi? Parce qu'elle a fait avec un blanc, en plus elle cache sa relation parce que voilà. Et j'appelle son père le lendemain, le jour où on arrive à la ville où on est, il arrive le lendemain. Vous savez que les témoins de Jéhovah, on ne transfuse pas, ils n'acceptent pas les transfusions. Et alors, donc son père est venu avec la mentalité de dire qu'on ne transfusera pas son enfant. Donc c'était la vie de sa fille au prix de sa religion. Voilà. Donc depuis qu'on est là, son père n'est venu qu'une seule fois et il n'est plus jamais revenu. Fallait s'y attendre, de toute
Et
façon, l'année
justement,
dernière, ça
comme tu disais,
remontait.
la vie de sa fille au prix de la religion, comment ça s'est passé? Parce qu'à un moment donné, vous avez dû prendre une décision qui était quand même importante pour ta fille, le fait de la transfuser, du fait de la maladie qu'on venait de lui découvrir. Et comment ça s'est passé? Parce que justement, on demande l'accord des parents.
En effet. Déjà, moi, comme j'ai tout dans mon téléphone, merci iPhone, j'ai tout dans mon téléphone, j'ai transféré à l'assistante sociale et au service juridique qui est à l'hôpital, pardon, que j'ai la garde exclusive de la petite. Et le service juridique a déchu le père de ses fonctions de parentalité parce que les docteurs ont prêté serment pour sauver la vie des enfants. Donc, il a été déchu de sa parentalité pour que ma fille puisse avoir les soins nécessaires pour vivre aujourd'hui.
Je sais même pas quoi dire en fait.
Voilà. Donc, Dieu merci, moi j'ai signé les documents. Lui, sur ces documents, il a certes signé, mais il a écrit, je suis contre la transfusion à cause de mes religions, à cause de mes convictions religieuses. Voilà.
Voilà, heureusement, je suis là. Aujourd'hui, la première chimio a éliminé toutes ces cellules cancéreuses. Aujourd'hui, on attend que ces globules blancs se reforment au niveau de sa moelle parce que vraiment, elle est aiguë. Et à partir de là, quand les globules vont se reformer, on verra si dans les cellules, il n'y a plus aucune cellule cancéreuse afin de continuer la deuxième cure, la troisième cure, jusqu'au à peu près au mois de mai, avril-mai par là. Voilà.
Tu vois, déjà, en tant qu'adulte, supporter une chimiothérapie, c'est tellement difficile. Comment est-ce qu'un bébé de 15 mois supporte la chimiothérapie?
On va dire la science a beaucoup évolué. Et il y a une semaine aujourd'hui... oui, il y a une semaine, hein, ou quoi? Non. Ça s'est passé jeudi ou mercredi quand ça a appelé, je te disais qu'elle a commencé à perdre ses cheveux, les effets secondaires. Donc, au bout d'une semaine après la fin de la première chimio, elle a commencé à perdre ses cheveux. Et c'était le gros choc parce qu'elle était en train de jouer et elle a tiré comme ça dans la... Elle grattait la tête, ça lui grattait et après elle a tiré. Et elle s'est retrouvée avec une grosse touffe de cheveux dans la main. Et ça m'a traumatisée. Et j'ai décidé le lendemain de couper ses cheveux. J'ai tout coupé et le peu de cheveux qui reste, ça tombe un peu sur le lit, ça tombe un peu sur moi et puis voilà quoi. Mais ça va, elle a toujours sa joie de vivre, elle est toujours aussi souriante, elle est toujours aussi, elle a repris à bien manger parce qu'avec la chimio, tout a été décalé, elle ne mangeait presque plus et aujourd'hui, elle remange depuis qu'elle a arrêté la chimio. Et vendredi de la semaine dernière, j'ai vu la psychologue parce que je me posais les questions. Je disais, mais psychologue, comment on dit? Je l'appelais psychologue. J'étais assise devant son bureau. Je dis, psychologue. Elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Je dis, vous avez déjà eu des cas de leucémie de ce genre dans l'hôpital? Oui, en effet. Le bébé. Vous avez eu un bébé de combien de mois qui a déjà eu une leucémie? Elle m'a dit 0 mois. Mon cœur a fait boum. Je dis pardon. Elle me dit oui, en effet, il y a un bébé qui est né avec une leucémie dans cet hôpital. Et je me suis sentie un peu, on va dire, rassurée parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est toujours en vie ou pas? Elle m'a dit, en effet, aujourd'hui, la petite, elle a 3 ans et elle est en très bonne santé parce que oui, imaginez un bébé de 0 mois qui reçoit des doses de chimio qui sont très très fortes. À forcerie, ma fille qui a 15 mois aujourd'hui qui reçoit une chimio, ça veut dire que c'est rien du tout comparé à un enfant qui vient à peine de naître.
Déjà rien que de... Tu vois, enfin... Après, on ne peut pas juger parce que chacun ressent les choses, tu vois, mais je trouve que le fait de penser ça aussitôt, de commencer à relativiser malgré tout, en fait, faire preuve de résilience comme tu fais là, alors que tu vis encore la chose, c'est même pas passé, c'est-à-dire qu'elle est encore en chambre stérile, elle a encore 6 mois
là où on de vous traitement. Parle, là où on vous parle, oui, en effet, là où on vous parle, cher auditeur, ma fille est encore malade, mais comment vous dire? Dieu a déjà exaucé mon vœu. Il y a dimanche, Dieu a répondu à ma prière. Il m'a montré comment elle est déjà guérie parce que le pasteur, ce jour-là... D'habitude, vous savez, moi, quand j'assiste à mon culte, c'est toujours le premier culte. Je n'ai pas le temps d'assister au deuxième culte parce que je me dis, je veux avoir toute l'attention sur ma fille, mais au moins le premier culte, j'ai tout mon temps. Mais il s'avère que ce dimanche, je n'avais pas le temps du tout d'assister au premier culte et je me suis résignée à aller au deuxième culte. Et le pasteur a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais le Saint-Esprit est en train de me parler, à me dire, ma sœur, mon frère, c'est fini. Je ne sais pas ce qui est fini dans ta vie, mais Dieu me dit de te dire que c'est fini. Que toutes les personnes qui ont un cancer, et mon cœur a fait boum, j'ai dit, hein? Dieu me parle à l'heure actuelle, là, comme le jeu.
Non, il ne m'a pas abandonné. Heureusement, Dieu n'abandonne pas quand on a l'impression qu'il nous abandonne. Tous ceux qui ont des cancers, tous ceux qui ont des maladies incurables, tous ceux qui ont des tumeurs, tous ceux qui ont des maux de tête, tous ceux qui ont des douleurs et tout. Et j'avais la main comme ça. Et il me dit, toi qui as ta main comme ça, sache que c'est fini les lamentations, c'est fini la tristesse, c'est fini. Et Dieu a réellement répondu à ma prière parce qu'aujourd'hui, je ne considère plus que ma fille est malade. Je dis juste que le miracle de Dieu a été opéré, même les médecins seront surpris un matin de se réveiller et se dire la maladie a disparu parce que Dieu est le médecin sans bistouri. Il soigne sans bistouri, ils n'ont pas besoin d'opérer. Lui, il met seulement la main, le Saint-Esprit, et puis c'est fini. Et donc au jour d'aujourd'hui, je considère que ma fille n'est plus malade, elle est guérie dans le nom de Jésus.
Je sais pas quoi dire. Franchement, tu es tellement forte parce que moi j'ai ma fille a à peine un mois de plus que la tienne, donc je sais pas, je m'imagine à ta place, je suis obligée de me de d'imaginer en fait, et c'est ça m'est insupportable, donc enfin tout ce que je peux te dire c'est que tu es forte. Et ta fille aussi est forte, hein. Elle est, parce que moi, je l'ai entendue, je l'ai aperçue un petit peu tout à l'heure. Franchement, elle a la joie de vivre au téléphone, elle interagit et tout ça. Enfin, voilà, ça fait chaud au cœur. Et vraiment, enfin, elle est dans mes prières. Et je pense qu'elle sera aussi dans les prières de toutes les personnes qui vont nous écouter sur cet épisode qui a pas été, qui n'est pas un épisode comme tous les autres. Hein. De toute façon, ils l'auront compris. Et tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est, enfin, sois forte, quoi.
Ok, la citation de la fin
Je pense que c'est le moment de la dire. Je vais te laisser la dire. En plus, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu sais quoi, j'ai même oublié, donc c'est très bien.
Toutes les mamans qui se lèvent le matin devraient savoir qu'elles sont des warriors pour leurs enfants.
Ça, alors là, tu vois, généralement, je dis, bon, tu vas me donner une citation et puis qui illustre un peu l'histoire que tu vas me raconter. Et généralement, j'ai hâte d'écouter l'histoire parce que j'ai toujours envie de faire ce parallèle avec la citation,
Imagination.
tu vois. Et puis là, tu me donnes ta citation comme ça à la fin et en fait, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tu es une warrior, en fait. Tu es une warrior en fait, j'ai pas d'autres termes. Enfin, tout ce par quoi tu es passé et ça ne s'arrête pas, ça continue et tu es là, tu es forte et résiliente malgré tout, c'est-à-dire que tu arrives quand même à voir du positif là-dedans et ça, c'est une leçon de vie.
C'est ça. Donc aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes mamans, parce que oui, moi j'ai eu ma fille, j'avais 25 ans, 25-26 ans. Et Dieu m'a permis d'avoir mon compagnon aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui, qui m'accompagne tout au long de cette aventure. Au moment où je vais abandonner, il était aussi à mes côtés. Certes, on n'habite pas ensemble parce que lui, il est encore en Afrique, mais bientôt, il va nous retrouver. Et puis voilà, faudrait vous dire que au jour d'aujourd'hui, on ne se met pas en couple pour nos parents. Faut pas vous retrouver dans des relations où vous allez vous dire, c'est qui la personne à qui je me retrouve à côté? Je suis en couple parce que ma mère a dit, c'est comme ça que je dois faire. Non. Vous devez être en couple parce que vous aimez cette personne, parce que vous devez vous dire que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devez vous dire, j'ai la chance de me réveiller aux côtés de ce gars, j'ai la chance de marcher à ses côtés, j'ai la chance d'avoir une épaule sur qui me reposer quand je suis fatiguée, sachant de surcroît qu'on vit une relation à distance, ce qui n'est pas d'autant plus aussi facile parce que voilà, mais quand on se donne les moyens et la chance de se dire que oui, ça c'est l'amour de notre vie. Bah, on met tous les moyens en place pour que tout puisse bien se passer malgré la distance. Parce que oui, l'amour à distance existe vraiment.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, moi déjà, je te souhaite, enfin, voilà, de trouver, enfin, je pense même que tu l'as déjà trouvé, en tout cas, que ta fille se remette
rapidement et que vous puissiez retrouver une vie, tout ce qu'il y a de plus normal et surtout ce qui te va, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi? Qu'est-ce que tu dirais qu'on te, enfin, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on me souhaite une longue vie pour voir les miracles de Dieu opérer chaque jour. Parce que je sais, vous savez, aujourd'hui, je pense que la leçon de vie que j'ai apprise aujourd'hui dans tout mon parcours, c'est comment asseoir sa foi en Dieu. C'est ça. Et en fait, c'est totalement ça, en fait. Croire en quelque chose qui n'est pas encore là, en fait, tout au long de mon parcours et puis aujourd'hui encore. Et puis voilà. Et moi, aujourd'hui, je souhaite avoir une longue vie pour voir comment ma fille continue de briller davantage et que je puisse avoir la chance de l'avoir, elle aussi, être un jour, être une mère et être un modèle pour elle. Tout au long de sa vie aussi.
Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Je suis sans voix parce que, enfin, voilà, je sais pas quoi te dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu as la foi et moi aussi j'ai la foi et je sais que de toute façon, il n'y aura qu'une fin heureuse et joyeuse. Ça, c'est
Amen.
sûr. En tout cas, merci encore pour ton partage. Je sais qu'il il aidera beaucoup de personnes.
Yes.
Il permettra aussi, voilà, à certaines autres personnes qui se sentent, qui vivent la même chose, qui passent par là ou qui passent par d'autres choses un peu compliquées, qui se sentent seules, qu'en fait, elles ne sont pas seules à vivre des situations compliquées et que, quoi qu'il arrive, il faut toujours garder un espoir, il faut se battre. Parce que ce que je vois surtout, c'est que toi, tu as été quelqu'un qui t'es battu en général. Pour toi, pour ta fille, et c'est ce qui est vraiment le plus important.
Sachez que il peut vous arriver d'avoir des coups de mou, hein. Ne pensez pas que certes je suis forte, oui, mais quand il y a des moments où vous avez besoin de pleurer, pleurez. Mais sachez que quand vous finissez de pleurer là, vous vous levez et vous souriez parce que vous avez droit au bonheur. Mettez un coup de pied à la vie et vous dites merde, je m'emmerde, j'emmerde tout le monde entier, j'ai le droit au bonheur. Ne restez pas juste en train de pleurer et vous ne vous relevez pas. Non, levez-vous et ayez cette force de toujours aller toujours plus loin en fait. Voilà. Merci à toi, Thierry, de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui.
Moi, j'en donnerai régulièrement à mes auditeurs parce que je sais qu'ils me demanderont. J'en donnerai
Voilà.
et de ta fille
Et
également, j'en
il y a
donnerai.
aussi une cagnotte, Thierry
C'est
partagera le
vrai.
lien.
On n'en a pas parlé, mais il y a une cagnotte du coup qui a été faite, une cagnotte Litchi. Je partagerai cette cagnotte et puis voilà, toutes les personnes qui voudront participer pour t'apporter leur aide, pour apporter leur aide à ta fille, pourront le faire sans problème, sans hésitation. Je partagerai sur le compte Instagram du podcast, sur le podcast et puis même sur le site moi-même. En tout cas,
Voilà,
encore
merci.
beaucoup de courage et vraiment merci à toi pour ton partage.
Merci, c'est gentil. À bientôt.
Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode. Merci à mon invité d'avoir partagé son histoire au micro du podcast Mona. La résilience de Charline m'a scotché. Elle est très forte. Sa petite fille aussi est une battante et je vous invite à prier avec moi pour son rétablissement total. Si vous souhaitez soutenir Charline et sa fille, une cagnotte Litchi est actuellement ouverte. Je mettrai le lien dans la barre d'infos et je partagerai également sur la page Instagram dédiée au podcast. À bientôt! Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. À bientôt!